Cascodeur Podcast, épisode 196. Corse, l'île de Bouté. Enregistré le 25 septembre 2018. Soutenez les Cascodeurs sur patreon.com/lescascodeurs. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 196. On continue dans la longue série des binômes puisque Antonio a disparu. Donc on va peut-être appeler la police. Et puis Arnaud est malade et donc il va aller tranquillement sous sa couette. C'est la saison, cela dit. Mais Guillaume et moi, on est solides. Et donc on assure.
Bah ouais, nous au moins on assure. Hein. Après les autres.
C'est ça. On a plein de news, donc on va démarrer directement. On va démarrer sur les niveaux des langages. Vous vous rappelez, Java 9, Java 10, Java 11, Java 12, c'est assez c'est assez confus pour tout le monde. Donc déjà, l'agenda du JDK 12, c'est donc la ramp down phase 1, c'est pour décembre 2018, donc c'est bientôt, hein, c'est dans 3 mois. Et pour arriver jusqu'à la general availability en mars 2019, le 19 pour être précis. Voilà, donc ça c'est pour le futur proche. Et puis pour vous, si jamais vous étiez toujours un peu confus, il y a les Java Champions qui ont sorti une explication en fait à peu près similaire à ce qu'avait écrit Stéphane Colborn sur quelles sont les options au niveau du JDK que vous pouvez utiliser si vous voulez ne pas avoir à payer d'argent à Oracle, ou si vous voulez ne pas avoir à payer d'argent tout court, et que vous voulez garder votre Java pendant plus que 3 mois, ou plus que 6 mois, ou plus. Donc c'est un Google Doc avec un lien dessus, avec une version courte, une version longue. Si vous êtes encore confus, je vous encourage à aller lire cet article-là. La réponse, c'est que le JDK est différent de Oracle JDK. Et donc, vous avez diverses options. Azure, Eclipse, IBM, Red Hat, Oracle, évidemment, SAP, etc., etc. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle Adopt JDK, qui est une approche communautaire à ça. Donc, voilà, si vous voulez la version gratos, entre guillemets, c'est peut-être vers ça que vous voulez aller.
Après, c'est vrai que les entreprises hein, qui veulent pouvoir éventuellement se retourner contre quelqu'un, etc., et adoptent JDK, c'est pas forcément ce vers quoi les entreprises iraient, a priori. Enfin, bon, après, si tu veux ou pas mettre de l'argent ou pas, mais bon.
Alors, Java, en fait, Stéphane Colborn a fait un autre article qui parle de la sécurité versus les nouvelles fonctionnalités. Et donc, Stéphane, il explique que, avant, on avait le JDK 8, et puis il y avait des versions bizarres, U71, U73, U74, U77, etc., etc. Et il explique que, il y avait une version majeure, ensuite, il y avait des versions de sécurité, puis il y avait des versions mineures qui ne devaient pas impacter l'API du JDK, c'est-à-dire pas de nouvelles API, mais par contre pouvait corriger, amener des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Et puis après, re de la sécurité, et ensuite la feature encore, etc., etc. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, avec Java 9, 10, 11, 12, etc., c'est la même chose. On a des patchs de sécurité pendant 3 mois, une nouvelle version tous les 6 mois. Et donc, la seule différence, c'est que les fonctionnalités vont pouvoir amener des nouvelles API, donc être un peu plus impactantes que uniquement tous les majeurs, les 8, 9, enfin les 5, 6, 7, 8. Voilà, donc c'est la grosse différence. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est un nom différent, et bon, ça c'est un peu confus, c'est tout. Et puis, j'ai un peu caché la news principale, mais alors, les gens dorment encore en Californie, mais normalement, le JDK 11 sort aujourd'hui.
Mais donc, vu qu'on va publier pas forcément aujourd'hui, donc ce sera voilà. Sorti.
Ça au sera moment où vous passé, écouterez
mais
ça.
C'est du futur pour nous.
Voilà.
C'est compliqué, la science-fiction. Voilà, rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, il y a le fameux NoHop Garbage Collector qui est fait justement pour tester la performance des Garbage Collectors versus le reste. HTTP Client, qui est officiel, qui était en preview avant, on en parlera un petit peu après. Les Local Variables, c'est-à-dire les VAR, quelque chose, mais pour les paramètres des lambdas. Plein de trucs au niveau cryptographique, donc les curves 25, 519 et 418, le SHA-20, le Poly-1305, voilà, il y a Flight Recorder qui est amené, donc Flight Recorder c'était un, alors si je me trompe pas, c'était le truc qui était propriétaire à la JVM qui venait de BEA à l'époque et qui maintenant est dans la communauté open source. Ouais, Girokit, merci. Il y a le fameux shebang pour démarrer des trucs comme vous démarrez Bash, en fait. Vous mettez un shebang, point d'exclamation, là où est votre truc Java, et puis ça démarra le programme Java avec le code source que vous mettez dans le reste. Donc ça, c'est, je pense pas que je vais l'utiliser, mais c'est intéressant. Vous pouvez l'utiliser en script. Du heap profiling avec un overhead léger, surtout l'implémentation de TLS 1.3, donc ça c'est cool, pas tout forcément, mais c'est important d'avoir cette base là. Encore un garbage collector, j'ai pas regardé le détail, je vous avoue, qui s'appelle ZGC, Scalable Low Latency Garbage Collector. En même temps, s'il disait Non-Scalable High Latency Garbage Collector, on n'aurait peut-être pas hésité. Ils ont viré Nashorn, ou déprécié, pardon, et ils ont déprécié PAC 200, qui étaient les compressions post-jar, en fait. Enfin, post-zip. Voilà, ça c'est JDK 11. Allez-y pendant qu'il est chaud, puisque dans six mois. C'est fini.
C'est clair.
Ouais, t'avais petit article sur HTTP client, justement.
Ouais, c'est aussi un Java champion, d'ailleurs, Ken Cousin, qui a écrit ça, qui a écrit un article, j'allais dire long, assez long et en tout cas bien détaillé, qui parle d'HTTP client avec JDK 11, Java 11, et qui montre comment on l'utilise, les différentes possibilités pour créer spécifier par exemple des timeouts, spécifier l'URL, le type de méthode qu'on veut utiliser, si on veut récupérer une string pour le body. Et après, en fait, ce qui est pas mal dans l'article, c'est qu'il continue son exemple en pluguant aussi JSON, pas le JSON, JSON, la librairie JSON. Je ne sais même pas comment on doit la prononcer d'ailleurs. Comment on doit l'appeler?
Le XON.
XON, ouais,
en français.
Et donc, il prend l'exemple ensuite pour utiliser JSON pour en fait faire du marshalling, c'est-à-dire au lieu d'avoir la string JSON, d'avoir des objets bien, bien typés. Et puis aussi, vers la fin de... Alors, il parle aussi de la sync. Si on veut faire de la sync et puis utiliser les lambdas dès qu'on a reçu la réponse. Et aussi, vers la fin... Alors, il ajoute aussi les tests... comment tester ça. Et à la fin, il explique aussi des petites choses qu'il a dû faire au niveau du build. Alors là, il utilisait pour son petit projet d'exemple, il utilisait Gradle. Et il y a des petites choses aussi à savoir par rapport aux histoires de modules et du module path et class path, etc. Donc, il y avait des petites choses subtiles à corriger pour que ça marche comme il voulait. Voilà.
D'accord.
Il y a aussi un autre article sur InfoQ sur JShell. Donc c'est la ligne de commande, on va dire, pour Java. Donc comme les shells qu'on peut trouver dans Groovy et plein d'autres langages, Python et n'importe quoi. Et il y a un article assez détaillé qui explique tout ce qu'on peut faire. Donc par exemple la complétion de code avec tab, les erreurs, documentation, gérer les imports, enregistrer des fonctions, des variables, rajouter des librairies externes, etc. Donc ça va pas mal en détail sur tout ce que vous pouvez faire dans JShell.
C'est marrant, moi, peut-être que c'est parce que j'ai grandi avec Java, mais c'est un truc que j'utilise pas, en fait, tu vois, l'échelle.
En fait.
À part Bash,
évidemment. Ouais, enfin, nous, comme on l'avait rajouté il y a 10 ans dans Groovy, si tu veux. Moi, je l'ai beaucoup utilisé en fait dans Groovy. Et là, c'est marrant parce que je retrouve tous les features qu'on a rajoutés au fil des années, même la complétion de code et ces choses-là. Et c'est vrai que j'aime bien le fait. Tu vois, tu veux jouer un petit peu avec une API sans forcément faire tout un projet complet. Et ça va dans le même sens que le shebang, la dièse point d'exclamation. Tu vois, pour essayer quelque chose rapidement, t'as pas forcément envie de lancer ton IDE, créer un build avec Maven ou Gradle, etc. Donc ça, moi j'aime bien pour explorer un petit peu une librairie. Je trouve ça assez sympa. Donc après, voilà, c'est peut-être une question d'habitude, quoi.
Ouais. Sinon, il y a une proposition de Brian Goetz, le célèbre Brian, qui j'ai la vie de Brian en tête, mais aucun rapport du tout, du tout, qui propose les corps de méthodes concises.
Et non
et
pas
en fait, c'est
circoncises.
Non. J'ai écouté un podcast sur la circoncision dans Stuff You Should Know d'ailleurs, c'est intéressant.
D'accord.
Aux États-Unis, par exemple, il y a le taux de circoncision, c'est 50%
ah ouais
sur notre classe d'âge, par exemple.
Wow.
Donc c'est au-delà du
pas.
Phénomène religieux, en fait.
Ah, c'est marrant.
Bref.
Bah attends, je vais aller chercher mes
aller
ciseaux.
Voir Stuff You Should Know. Non, je te conseille pas. Apparemment, il y a deux trois trucs à surveiller quand même. Oui, et donc c'est des fonctions où quand on se met à écrire des lambda, on veut qu'elles soient alors si on est obligé de faire ouvrir l'accolade, return, l'appel de fonction, fermer la enfin point virgule, fermer l'accolade point virgule, bon, c'est bien mais on pourrait économiser l'accolade, donc ça c'est une approche qu'on peut faire où on met la flèche et puis ensuite on fait l'appel de la méthode et puis on peut aller encore un cran d'après si c'est vraiment qu'un appel de méthode où on met le nom de la classe ... et le nom de la fonction, donc là c'est vraiment une référence au nom de la méthode. Et donc ça c'est la généralisation de ces usages là dans Java, donc cette proposition. Alors je sais pas s'il y a un objectif en termes de temps, mais voilà.
Je crois que c'est pas précisé. Ouais. Pas précisé pour l'instant.
Java Reflection.
Oui, alors ça, c'est les gens de OptaPlanner là, qui font les trucs d'optimisation, d'agenda, trucs comme ça. En fait, ils doivent. Alors, si j'ai bien compris,
du coup. De problèmes non NP complets.
Ouais, ils doivent avoir. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont encore un talk là, à DevOps Belgique cette année sur ce sujet-là. Enfin, pas sur la réflexion, mais sur leur. Sur
oui,
ce qu'ils
parce
font.
Que je crois qu'ils l'ont utilisé pour.
Ouais.
Pour le,
ouais, ouais.
Le calendrier de DevOps. Enfin, Stéphane va appuyer sur le bouton. C'est ça mon souvenir.
Ouais. Et donc en fait, ils doivent, je pense, hein, dans leur outil, c'est pour ça qu'ils ont fait cet article-là, utiliser pas mal finalement la sérialisation, la réflexion et tout, pour parce que j'imagine que dans l'outil, par exemple, peut-être que pour DevOps, on a une classe, je sais pas, talk, speaker, etc. Mais pour un autre projet, ce sera pas forcément les mêmes concepts. Donc, du coup, ils doivent certainement sérialiser, marche-aller, un-marche-aller, et ça doit fonctionner pour différents types de projets, j'imagine. Enfin, c'est pas justifié dans l'article pourquoi ils ont fait ces recherches-là. Mais bref. Donc, ils ont regardé, différentes approches, en fait. Donc alors attends, je vais regarder directement vers la conclusion. Donc en utilisant l'accès direct, mais ça veut dire coder pour chaque truc, pour chaque type de domaine modèle qu'ils utilisent. Ils utilisent la réflexion, ils utilisent des method handles, des static method handles, ou alors utiliser le Java compiler pour finalement compiler à la volée du code avec le compilateur Java, et aussi les lambda meta factory. Donc ils regardent deux choses, le coût du bootstrap.
Tu sais ce que c'est les lambda meta factory exactement?
J'ai vaguement su parce qu'on l'a implémenté sur Groovy, mais comme c'est pas moi qui l'ai implémenté, je préfère pas dire de bêtises. Mais en tout cas, donc au final, quand tu génères du code avec le Java compiler ou avec les static method handles, c'est aussi quasiment aussi rapide que l'accès direct. Après le Java compiler, t'as du temps de génération, ou les lambda meta factory, t'avais le temps de bootstrap qui était plus élevé, je crois, je sais plus lequel. Et donc voilà, ils comparent un petit peu les différentes méthodes et j'imagine qu'ils ont choisi en fonction de ça dans leur produit.
De toute façon, Java Compiler, ça va être le pire hein, quand même en Bootstrap. Oui, c'est ça.
Ouais, ouais. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir les différentes méthodes possibles et il montre les différents types de code pour pouvoir faire ça, quoi.
Donc Static Method Handle et Java Compiler, c'est les plus proches de l'accès direct,
ouais,
pour information,
ouais.
Ce qui n'est pas ridicule.
Ouais, ce qui est ouais, logique.
Voilà, et en parlant d'aller vite, on parle beaucoup de GraalVM en ce moment. Et donc, Julien Ponge a écrit un article là-dessus. Tu peux peut-être le résumer, si tu veux.
Alors, attends, parce qu'il l'avait fait il y a début du mois, donc j'ai un petit peu oublié. Donc, en fait, on parle pas mal de Graal, mais il y a, en fait, il y a plusieurs projets qui existent autour de cet environnement-là. Donc, il y a la partie GraalVM, la partie, alors attends que je dise pas de bêtises, Substrate
ouais, si tu veux,
VM.
Ouais, si tu veux, je peux faire cette partie.
Ouais, attends, bah vas-y.
T'as GraalVM, le... Alors, il y a plusieurs trucs, effectivement. Il y a le compilateur qui est réécrit entièrement en Java,
qui va
prendre du code Java et le compiler en natif. Donc, ça, c'est GraalVM Compiler. Il y a un truc qui s'appelle Truffle qui permet de faire des appels inter-langage pourvu qu'ils adhèrent à la structure de la façon dont ils appellent les choses. J'avoue que j'ai jamais trop zoomé là-dessus, donc, mais ça permet de faire un appel C en Java de manière sans payer les surcoûts, etc. Et puis, il y a SubstrateVM qui est une implémentation de la JVM différente, donc pas les API, etc., mais en dessous du moteur, donc le JIT, etc., ça n'existe plus parce que tout est compilé nativement au moment de la compilation, littéralement. Et le garbage collector est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de garbage collector aussi avancé que sur la JVM. Et du coup, il explique qu'est-ce qui vous sert à vous. Et donc... c'est assez intéressant, il explique bien. Si on va directement sur son résumé, donc l'avantage du SubstrateVM, c'est que ça fait des applications qui sont auto-contenues, parce qu'il n'y a pas de dépendance à une JVM, tout est compilé en natif. C'est super rapide à démarrer, l'espace mémoire est faible, et l'exécutable est aussi relativement petit. Par contre, il n'y a pas de JIT compiler, donc en théorie... moins de performance une fois que la JVM est chaude, elle est censée être meilleure. Le garbage collector est relativement simple. Et puis, il y a plein de contraintes sur le code Java que vous pouvez utiliser, notamment si vous avez des réflexions, des proxys, des appels dans des statiques, des entrées-sorties, des choses comme ça.
Et par exemple, justement, Groovy, on peut pas l'utiliser avec parce qu'il y a tout un tas de choses qui manquent, en fait. Et alors, entre ce qu'on utilise pour la réflexion ou autre, il y a déjà différentes choses qui manquent et qui font qu'on peut pas faire tourner Groovy avec SubstrateVM.
Ouais.
Malheureusement.
Notamment pas d'invoke dynamique.
Ouais. Qu'on utilise.
Et donc il dit voilà, c'est bien pour les lignes de commande, les devices embedded ou contraints, et puis les containers au sens container Linux. Et puis il dit alors pour le Graal compiler qui lui s'intègre à la JVM telle qu'on la connaît pour faire du just-in-time compilation, donc c'est comme la JVM normale, donc on a les garbage collectors qu'on connaît, donc les performances qu'on connaît. C'est super pour les applications classiques au sens JVM. Par contre, ça a le poids de la JVM en termes de temps de warm-up, d'espace mémoire. Le temps de démarrage est relativement lent aussi. Puis après, apparemment, il y a 2-3 trucs à polir au niveau des interactions d'intégration avec dans les phases de compilation. Voilà, donc il dit pour les services au sens les choses à la Twitter, microservices, mais des choses qui vont rester en ligne un certain temps, c'est intéressant. Intéressant aussi pour les langages de JVM alternatives qui peuvent utiliser ce compilateur qui est censé avoir des meilleurs faire termes. Je sais que Twitter l'utilise par exemple, le GraalVM compiler spécifiquement.
Ouais.
Pardon. Alors, il y a un article sur les coroutines en Kotlin, donc la version 0.26, qui a amené pas mal de choses différentes, notamment la notion de contexte. je sais plus comment ils appellent ça, coroutine contexte ou un truc comme ça, qui explique, en fait, bon, c'est assez intéressant. Alors au début, on se dit, ah, ça y est, j'ai encore mal à la tête, parce que, bah, moi, je suis pas familier nécessairement avec ces choses-là. Donc, pour info, les coroutines, c'est des threads qui sont légers. On appelait ça, je sais pas si c'est un revival des green threads ou pas, mais en tout cas, c'est des threads qui sont gérés dans le user space par le Java lui-même. Ou par Go, l'équivalent des coroutines Go, et ça démarre pas un thread au sens OS du terme, donc ça évite les context switching entre le user space et le kernel space, et puis ça, on peut décider d'avoir une consommation mémoire beaucoup plus légère là-dessus, donc on peut en faire des millions, alors que les threads, bon, c'est pas le cas. Et par contre, il explique, bon, c'est bien les coroutines, on démarre les choses, et un peu comme dans l'asynchrone, notamment en UI, vous savez, quand vous cliquez sur un écran, et puis vous dites, ah, ça rame, c'est pas grave, je reviens en arrière, et je repars en avant. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ici? Soit c'est bien codé, donc quand vous allez en arrière, tous les appels asynchrones sont éteints, mais ça, du coup, il faut qu'il y ait un scope, une notion de, bah, je démarre cette coroutine, mais si cet objet-là meurt, il faut arrêter toutes les coroutines dépendantes. Soit il n'y a pas de scope, qui était la version avant dans Kotlin, ce qui fait que vous avez des coroutines qui vont être exécutées à un moment donné sur un écran dont vous êtes parti, et puis vous avez réinstancié une nouvelle version avec des nouvelles coroutines qui se rajoutent, donc en fait, vous avez fait que l'application, elle est encore pire. Donc, ça explique notamment ces problèmes-là et comment ils essayent de résoudre le problème. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que là, je suis un petit peu au-delà de ma zone de confort, mais ça, c'est un article sur les structures de concurrency. Et en parlant de ça, il y a le projet Loom. Donc, j'ai lu, alors c'est pas nouveau, hein, mais j'ai lu en fait leur proposition, les motivations. Et projet Loom, c'est effectivement, alors, ils appellent ça des fibers, mais c'est en gros des coroutines au sens Java. Ils expliquent notamment très bien la notion de coroutine. Elle a besoin de threads très légers, voire même on pourrait utiliser Java Long Thread. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Ils expliquent ça dans les motivations. Et puis, il y a la notion de scheduler. Et puis, on a déjà le fork join qui est un pool de scheduling de tâches parallèles qui marche alors de ce qu'ils en pensent plutôt bien. Et donc, ils expliquent voilà, les approches diverses et variées qu'ils vont vouloir utiliser sur le projet Loom. Intéressant comme lecture. On va passer au runtime. Si vous utilisez Jackson et que vous avez une version qui est la 2.7, enfin avant 2.9.7, et ben mettez-vous à jour. Il y a encore
une découverte CVE.
Ouais, problème de désérialisation. Là, visiblement, c'est sur les désérialisations de type polymorphique. Donc, mettez à jour vos Jackson parce que c'est important. Ça fait partie de la surface que vous exposez à n'importe qui puisque vous recevez du Jackson. Enfin, vous recevez du JSON, vous le parsez en Jackson et ce JSON, il vient de n'importe où en fait. Il vient de l'internet, donc faites gaffe.
C'est dangereux l'internet.
C'est dangereux l'internet.
Non, voilà. Puis pourtant, il y a quand même un Jackson de moins normalement.
Ah oui, c'est vrai. Mais bon. Les Jackson 4. là, pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, sinon, dans le runtime aussi, Java E, vous savez, a été open sourcé chez Eclipse avec le nom Jakarta I. Et là, la suite de tests, donc le fameux, la couronne britannique de Java en fait, les joyaux de la couronne, c'était ce fameux test parce qu'il fallait passer pour passer la compatibilité, il fallait passer ces tests là. Et donc ça vient d'être open sourcé. Alors tout n'est pas propre en tout cas, mais tout a été sorti et du coup voilà, il y a des gens qui notamment travaillaient sur ce CTS dans la version privée qui arrivent et qui vont aider à contribuer et simplifier les choses pour que ça devienne utilisable pour tout le monde. Donc grosse milestone comme on dit en anglais. En tout cas, c'est peut-être un peu long à venir, mais ça avance et donc ça c'est plutôt cool de voir cet univers-là se réinventer. En
Java
fait.
EE n'est pas mort.
Voilà, Java is back. D'abord, il s'appelle Jakarta EE.
Ouais, c'est bizarre.
Voilà. Et en parlant de ça, donc Glassfish a été donné à la Fondation Eclipse et donc ils ont annoncé leur protocole au niveau de la prochaine roadmap en fait. Et donc tout le code a été contribué vers la mi-septembre. Il est censé builder là depuis quelques jours. Ils vont faire passer les tests de CTS, ces fameux tests qui ont été open sourcés là autour d'octobre. Ils veulent vérifier qu'ils ont un pipeline de continuous integration. Et je vais zoomer, mais la release décembre, mi-décembre. Donc voilà, ça c'est la transition vers la fondation Eclipse.
Donc on peut plus dire Glassfish, je m'en fiche pour la rime.
Si tu peux toujours, si tu veux. Et puis, vu qu'Oracle fait plus ça, il fait autre chose. Et qu'est-ce qu'il fait, Oracle? Eh ben, il fait un framework qui s'appelle Helidon.
J'aurais tendance à dire Helidon, mais je suis pas sûr.
Helidon, ok. Bon, Helidon, avec un H. est en fait un framework au sens un framework librairie, c'est-à-dire on démarre d'une application main, on décide avec vous savez ces API au sens routeur de dire bah voilà quand tu arrives sur tel endroit je veux que enfin tel URL je veux que tu appelles telle fonction qui va faire et après on peut dérouler la pelote. Donc ils ont sorti une version donc qui s'appelle Micro Framework Helidon SE et puis ils ont une version qui implémente Micro Profil, alors pas la dernière mais la version d'avant là la 1.4 de mémoire. Avec JAX-CRS, JSON, CDI, config, security. Voilà. Un nouveau framework avec quoi jouer. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur, je crois que c'est helidon.io.
Ce que j'aime bien aussi avec ça, juste pour ajouter un petit mot là, c'est qu'ils utilisent aussi Netty, donc c'est pas forcément obligé de faire les servlets, ce qui est assez original. Et du coup, j'ai l'impression qu'on prend entre guillemets un peu le meilleur des spécifications de feu Java EE pour en faire quelque chose d'utile et de tu sais d'organique. Tu rajoutes tel ou tel spec quand on a besoin et tout. Ça, j'aime bien l'idée en tout cas.
Ouais. Je crois qu'il y a un gros débat sur abandonner Servlet ou pas, notamment dans Microprofil, parce que finalement il y a une adhérence assez faible qui est historique de JAX-CRS, mais à part ça, voilà, on est plutôt sur d'autres approches maintenant.
Ouais, tout à fait.
Voilà, on va passer à l'infrastructure. Pour ceux qui s'intéressent à l'univers Apache Kafka, etc., il y a un projet concurrent qui s'appelle LogDevice, qui a été open sourcé par Facebook. Donc après historiquement ils réécrivent autre chose une fois qu'ils open source, mais peut-être c'est pas le cas cette fois. C'est pas exactement comme Kafka, l'idée vraiment c'est de pousser des logs, donc pas forcément des messages, mais pousser des logs qui seront après traités de manière asynchrone évidemment, au fil de l'eau aussi. Là, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils sont vraiment focalisés sur garantir la possibilité d'écriture, quitte à prendre un délai sur la lecture. C'est-à-dire, ils vont dire, on accepte l'écriture. Par contre, il y a un protocole de synchronisation des différents nœuds pour être d'accord sur ce qui a été foncièrement écrit et ce qui pouvait être lu par tout le monde. Du coup, il y a un petit délai supplémentaire au niveau de la lecture là-dessus. Voilà, je vais pas aller plus en détail parce que c'est pas hyper clair vraiment pour tout le monde la différence entre LogDevice et Kafka en termes fonctionnels, même si LogDevice de toute façon c'est qu'un sous-ensemble de l'écosystème Kafka, donc là on parlait vraiment du Kafka Broker. LogDevice, le meilleur truc que j'ai trouvé c'est sur Hacker News où il y a des anciens de Facebook qui parlaient de LogDevice et du coup qui expliquaient un petit peu les différences. Donc si c'est un univers qui vous intéresse, vous pouvez aller sur logdevice.io.
Yes. Passons au cloud.
Et puis, ouais.
Là, il y avait Josh Long, le célèbre Josh Long de chez Pivotal, Spring Source, avant, etc. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, qui a fait une série de 8 articles sur Spring Cloud et l'intégration avec Google Cloud Platform. Donc, où il explique comment faire le setup, l'authentification, comment accéder aux bases de données relationnelles, comment utiliser Spanner, la super base globale scalable là, de Google, comment faire du pub sub, et bref, tout ça avec Spring et Spring Cloud. Donc, il y a tout un tas d'articles avec plein de petits exemples et qui sont sympas à suivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai vue, alors, c'est Serverless Best Practices. Je me focalise un petit peu sur ce sujet-là en ce moment chez Google et j'ai trouvé cet article-là sur Medium assez intéressant. Donc c'est un des cofondateurs, je crois, d'une des serverless
Serverless days,
days,
c'est
voilà.
days,
Paul
ouais.
Johnston, il s'appelle. Et donc on retrouve tout un tas de bullet points sur, par exemple, voilà, une fonction devrait faire une seule chose et une seule, qu'on ne devrait pas faire des fonctions qui appellent d'autres fonctions, parce que on peut avoir des soucis si la fonction est pas bien appelée, il faut faire du retry, il faut faire etc. Alors qu'en fait, la meilleure approche, c'est plutôt d'utiliser, si par exemple on a, chez Google c'est du PubSub, mais envoyer des messages sur des queues de messages, des choses comme ça pour que des fonctions réagissent à ce qui est sorti sur la queue de message. Donc plutôt utiliser les mécanismes autour de ça plutôt que de soi-même appeler des fonctions à partir de sa propre fonction. Essayer d'avoir le minimum de dépendance possible pour que ça démarre plus rapidement, pour qu'il y ait moins de surface d'attaque au niveau sécurité. Éviter les connexions en direct avec les bases de données. Oui, ou aussi un anti-pattern qui voyait, c'est par exemple une fonction, une méga fonction qui fait le routage vers plein plein de fonctions au lieu d'avoir une fonction par route. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, aussi, alors dans les. On voit pas mal ça où dans les microservices où on nous dit oui, il faut avoir une base de données par microservice, quitte à répliquer les données et puis après essayer de les synchroniser avec consistance éventuelle. Mais là, il parle plus, j'aime bien le titre, c'est data flows et pas data lakes, c'est-à-dire on traite la donnée qui voyage, mais on va pas la chercher et la restocker à chaque fois. Enfin, après, ça veut pas dire qu'elle sera pas stockée, elle sera stockée, mais en tout cas, on passe en fait le payload de fonction en fonction, le payload dont on a besoin. Enfin voilà, il y a différentes. Si, il y en a encore une autre. Ouais, enfin voilà, il y a différentes. J'en ai sauté une ou deux, mais j'ai trouvé ça pas mal comme résumé de certaines bonnes pratiques à suivre pour l'utilisation de fonctions dans le contexte de microservices.
C'est intéressant parce qu'à un moment il dit n'utilisez pas les connexions mais utilisez des services. Donc en fait il préfère avoir le surcoût de la connexion HTTP pour faire quelque chose et après de la libérer plutôt que de garder une connexion permanente comme on a une connexion à une base de données relationnelle ou à voilà. Du coup finalement le HTTP2 il serait pas si utile que ça dans un univers serverless parce qu'il y a, on est obligé de renégocier le truc de zéro en fait d'après ce qu'il décrit quoi.
Ouais. En tout cas, ce que j'aime bien aussi, c'est que les différentes, enfin, faut lire l'article, hein, mais les différentes pratiques et patterns qu'ils proposent sont vraiment cohérents les uns par rapport aux autres. Donc, ça vaut vraiment le coup de le lire, je trouve. Et troisième news par rapport au cloud. Alors, il y a un article que j'ai lu il y a un petit moment. C'était au début, non, quoi que c'était, ouais, il y a 10 jours. Multi-cloud is a trap. Alors, on parle de cloud hybride, de cloud multiple, être sur plusieurs clouds en même temps, etc. Et en fait, j'ai trouvé l'article intéressant parce que, enfin, il explique que, ouais, c'est bien gentil, ouais, dans un monde idéal, ce serait bien d'être multi-cloud parce que s'il y a un cloud d'un provider à droite qui tombe, on peut passer sur celui de gauche, etc. Mais en fait, c'est super compliqué et super coûteux à faire. Et finalement, au lieu de se focaliser sur utiliser un cloud à fond, enfin, sur faire ça sur plusieurs clouds, on perd du temps et on ferait mieux d'utiliser au maximum un cloud en particulier. Donc après, il couvre différents aspects, donc les aspects de locking, les aspects de disaster recovery. Il y a aussi, alors attends, c'est un peu plus loin. Par exemple, le fait que si on va chez un éditeur de cloud particulier, c'est peut-être aussi parce que c'est chez ce groupe-là, il y a peut-être un produit qui est super intéressant. Et si on utilise, je sais pas, un truc particulier chez Amazon qui n'y a pas chez Google ou chez Azure qui n'y a pas chez Amazon, etc., c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Et ça, c'est sûr que ça ne va pas être portable sur les différents clouds parce que ça n'existe que chez un cloud en particulier. Après, il parlait aussi. Vas-y, non, tu voulais dire quelque chose?
Non, non, bah fini après. Moi, j'ai mon opinion là-dessus.
Ouais. Et par exemple, sur le pricing aussi, si on est multicloud, on ne peut pas forcément tirer parti au maximum éventuellement des discounts. J'arrête pas d'utiliser des mots anglais, désolé. Des rabais, des réductions.
Les ristournes, des monsieur, ristournes, les ristournes.
Des ristournes qu'on peut avoir parce qu'on a toute son infrastructure là. Donc après, ça ne veut pas dire hein, qu'il ne faut vraiment pas faire de multicloud. Ça fait sens éventuellement dans certains contextes. Donc c'est ce qu'il dit vers la conclusion. Mais voilà, il faut peut-être être un petit peu plus pragmatique, se focaliser peut-être plus sur la valeur ajoutée qu'on veut donner à ses clients avant de penser à ça. Et souvent, c'est vrai que si on reste sur un cloud particulier, je dis pas spécialement ça pour Google Cloud, hein, c'est complètement agnostique, le coût d'essayer d'être hybride et multi-cloud est quand même super élevé plutôt que le temps qu'on aurait pu passer à rajouter des super fonctions pour nos utilisateurs, quoi. Et toi, c'est quoi, du coup, ton opinion
ouais.
là-dessus?
Alors moi, pareil, je suis biaisé, mais dans l'autre sens, parce que la notion de hybrid cloud, c'est au cœur de la stratégie Red Hat. Mais ouais. J'ai une vision un petit peu différente. Alors déjà, ce monsieur, il a essayé de faire de l'hybrid cloud et il s'est vautré. Donc peut-être ça veut dire que c'est de la bonne expérience. Ouais. Ou bon, bref, à voir. Mais par contre, moi, je vois ça un petit peu différent de lui. Alors déjà, il y a la moitié des arguments qu'il pose, c'est les mêmes arguments que j'imagine Oracle posait dans les années 90. Et maintenant, on voit pas mal de gens qui aimeraient beaucoup, beaucoup sortir de du tout Oracle. Mais dès qu'ils enlèvent une brique, les prix augmentent fois X. Donc, ils sont coincés. Donc ça vient de là et que ils aimeraient bien changer tout et il y a peut-être 95% des trucs qui peuvent passer de l'un à l'autre mais au final les 5% l'application un peu critique qui est difficile à porter, il y a trop de dépendance sur Oracle DB, ils sont coincés. Et imaginez, c'est une base de données relationnelle, il y a SQL en termes de standard, donc passer de ça à Postgres, MySQL, c'est impossible pour ces gens-là. Imaginez quand c'est des produits qui sont pas standardisés par définition. Donc il y a ça, c'est pas parce qu'il y a de la compétition, c'est qu'une fois qu'on a mis ces données là-dedans et qu'on a un pattern d'utilisation autour de la technologie de stockage, on peut se retrouver coincé. Donc faut prendre quand même un petit peu de recul là-dessus. Et puis après moi l'hybrid cloud, même si effectivement on peut dire pour une application donnée, autant que j'utilise par exemple Google Spanner pour cet usage-là, c'est vraiment fait pour ça et sinon si j'essaie de le réinventer, ça sera pas aussi bien. Ok, mais par contre, ça veut pas dire que des morceaux... En fait, faut garder cette fluidité. Il y a des morceaux de votre infrastructure qui va être chez Amazon, des morceaux qui vont être chez Google, des morceaux qui vont rester chez vous. Est-ce que vous voulez apprendre des modèles de programmation qui sont différents de l'un de l'autre, ou est-ce que vous voulez quelque part une zone un peu tampon et une façon homogène de développer vos applications qui, eux, après, utiliseront des services spécifiques ou des services portables entre les deux. Et donc c'est la vision Red Hat, c'est la vision Kubernetes finalement, d'apporter cette flexibilité là. Donc voilà, moi je suis un peu plus, enfin c'est difficile dans un article aussi bien parce qu'il est bien, écrit, etc. Mais faut essayer de voir aussi les autres parties et c'est toujours un petit challenge de quand quelqu'un écrit quelque chose d'assez bien argumenté de voir pourquoi on n'est pas d'accord et d'essayer d'argumenter aussi.
Mais c'est vrai que ces services-là, par exemple, tu disais Spanner, c'est un bon exemple, parce qu'on n'a pas besoin d'être hébergé chez Google pour utiliser Spanner. Donc c'est vrai qu'on peut tirer parti de ce service et tout en ayant le reste ailleurs sur l'OpenShift chez soi, sur chez Azure ou autre, quoi. Donc,
Et alors j'ai pas de référence, mais il y avait un super article d'un gars de la recherche qui explique pourquoi les fameux New SQL des clones de Spanner, mais sans la technologie GPS avec la garantie de temps de latence, de temps de décalage des horloges en fait des serveurs à travers le monde. Il explique qu'il y a deux façons de faire. Pour résoudre ce problème-là, on peut faire un consensus global, mais c'est long parce qu'il faut aller discuter avec tout le monde. Mais par contre, on a la garantie que toutes nos données sont vraiment cohérentes au sens base de données. On voit tout ce qui est cohérent à un instant donné. Et puis pour accélérer en termes de, parce que si on attend que tout le monde soit d'accord pour chaque commit, on en a pour longtemps dans un système distribué. Donc à ce moment-là, on fait du batch. Donc ça, c'est une approche où on dit bon, on va prendre 50, 100 transactions, puis on va les batcher en un seul, et puis on va faire un protocole d'accord en fait entre tous les serveurs sur ces 100 transactions. Et ce qu'utilise Spanner, c'est une approche différente où ils disent nous, on va garantir la consistance de manière forte dans un sous-ensemble, dans un shard, en fait. Donc, on essaie de sharder ces données comme il faut pour qu'on soit toujours, en gros, sur le même shard et qu'on ait la garantie forte. Par contre, Spanner est garanti aussi une garantie forte entre les shards parce qu'il dit, voilà, je sais que ce shard-là et ce shard-là, ils sont pas transactionnellement cohérents dans l'absolu parce qu'il n'y a pas de protocole d'accord global. Mais par contre, je me garantis que il y a une fenêtre de temps. En fait, j'utilise le temps, c'est-à-dire tel truc qui est arrivé avant tel autre au sens clock time, pour décider qui d'arrive avant en termes de transactions et du coup d'avoir une vue globale sur le système. Mais par contre, il peut y avoir un petit décalage. Alors comment on fait pour éviter ce problème-là ? Eh bien, on dit voilà, je vais attendre le temps maximum, enfin le temps de décalage entre une horloge et une autre horloge à travers le monde sur mes serveurs. Et si je garantis que ce temps de décalage il est en dessous de, mettons, je sais pas, 15 millisecondes, à ce moment-là, 15 millisecondes, c'est mon temps de latence entre le moment où j'ai écrit quelque chose et le temps où je vais pouvoir le publier au monde de manière cohérente. Donc Spanner, il peut faire ça parce qu'il y a du hardware, des horloges atomiques, voilà, enfin c'est du James Bond des années 60. Les NewSQL, ils ont pas ça, donc ils font ça de manière utiliser network comment ça s'appelle ce truc,
NTP.
NTP, voilà, enfin bref, et définissez un niveau de cohérence, mais c'est beaucoup plus faible. Et ce que le gars dit, c'est que, bon, la consistance globale avec batch, elle adresse 500 000 requêtes par seconde, donc bon, on peut envoyer du lourd déjà. J'essaierai de retrouver cet article-là qui était super intéressant, j'espère que je lui ai donné honneur, parce que c'est pas forcément super simple à résumer ce truc-là. En tout cas, il était très bien écrit.
Ouais.
Voilà, on va passer au web, et il y a AXA. Donc il y a un truc qui s'appelle AXA Lab ou AXA Innovation, je sais plus comment ils font, mais ils ont un truc où ils sont entreprises libérées à fond, GAFA-like, etc., etc. Et puis là, ils viennent de décider d'arrêter leur application mobile sur l'assurance. Et ils expliquent pourquoi. Alors pour moi, ça fait un peu Captain Obvious parce que évidemment qu'on va pas utiliser et garder sur notre téléphone une application que on utilise une fois par an. Mais bon, il fallait qu'ils essayent pour voir. Mais c'est très cohérent, c'est de dire bah voilà, les gens ils utilisent en fait 4 applis ou 5 applis principalement tous les jours ou toutes les semaines. Et au-delà de ça, en fait, ils préfèrent ne pas avoir à installer une appli à la gérer. Ils veulent plutôt aller sur le site web mobile et gérer le problème. Et on communique avec son assurance que quand on a un problème ou une fois par an quand on trouve que c'est trop cher, du coup ça ne méritait pas une application et du coup ils arrêtent l'appli, ça libère des gens qui vont pouvoir bosser à d'autres choses. Et donc selon les choses AXA, ils gardent des applis ou pas, mais en tout cas au niveau de l'assurance ils le gardent pas. Je trouvais ça intéressant, même si pour moi cette folie de tout le monde veut une application, ça me paraissait pas forcément correct. Quand on a déjà un business établi, qu'on veut une appli versus un site web mobile. Je sais pas si toi, t'avais des opinions là-dessus.
Mais par contre, tu vois, pour, je crois qu'ils disaient dans l'article aussi qu'ils ont quand même gardé leurs applis sur les autres pays dans lesquels ils sont établis.
Donc, ah bon
ouais, d'accord. Ouais. Donc je me demande du coup si ça va être généralisé après, ou est-ce que ça veut dire que ça marche mieux dans les autres pays, je sais pas, c'est bizarre.
Il me semblait que c'était sur les autres divisions, pas forcément les autres pays. Mais bon, bref, c'est ouais, le teaser. Quelle est la réponse ? Allez lire l'article. voilà, sinon il y a alors pour ceux qui comme moi ont tendance à toujours oublier Corse, cette fameuse cross origin resource sharing et le problème qu'il y a dans un navigateur, en fait, quand une page web charge de exemple.com, elle ne peut aller chercher des ressources que de exemple.com. Si elle va aller chercher... elle ne peut... Non, c'est pas ça le truc. Bref, ça y est, je suis déjà paumé. Quand je l'avais lu, j'avais tout compris.
1000 développeurs peuvent faire 1000 fois... <C'est ça. Bon.
rire> peuvent lire 1000 fois Corse.
Non, mais c'est quand on veut... Ils ne toujours pas avoir compris.
C'est ça. C'est l'idée de protéger, vu qu'on pouvait faire des appels, voilà, Ajax asynchrone, on n'a pas le droit de faire des appels Ajax synchrone vers une autre, un autre domaine,
origine.
En fait. Ça évite de impersonnifier la personne du genre, bah tiens, je charge Emmanuel lescascodeurs.com et en fait, je charge twitter.com et du coup, je vais envoyer un tweet en disant, ah, les cascodeurs, c'est super, mais en votre nom. Donc, c'est pour éviter ce genre de problème. Et du coup, ça pose problème parce que tout le monde ne veut pas garder ses ressources et ses services sous le même nom de domaine. Du coup, ils ont inventé un truc qui s'appelle le Corse, qui sont des policies, en fait, qui permettent à un serveur de dire, moi, j'accepte les requêtes de tout le monde, ou alors, je n'accepte les requêtes que de tel sous-domaine, ou de tel sous-domaine, mais uniquement les put, ou uniquement les get, ou voilà, des choses comme ça. Et ça permet de se libérer du same origin policy, de la fameuse same origin policy. Et donc, l'article en français dans le texte, s'il vous plaît, explique très très bien ces choses-là, et donc, au moins, au moment où vous le lisez, quand vous l'avez lu, vous avez tout compris. Après, vous oubliez assez vite.
Mais au moins, on a une référence pour revenir voir. Et la Corse est une exactement. Très belle île, quand même, faut bien le préciser.
Ouais. Ouais. C'est pareil, il y a le same origin. c'était une blague. Hein.
Ça n'a rien à voir avec l'île, alors.
Non.
Parce que si tu n'es pas alors, de la même origine, si tu n'es pas Corse, tu peux quand même y aller.
Tu peux, mais il faut que tu sois justement accepté. Il y a des sous-domaines qu'ils acceptent. Non, on rigole. Alors déjà, vous savez, il y a un mois, on a démarré l'aventure Patreon. Donc Patreon, c'est ce qui nous permet de subventionner le podcast, en fait. Avant, on utilisait des sponsors entreprises, mais je vais pas réexpliquer ce que j'ai expliqué la fois d'avant, mais c'est beaucoup plus compliqué pour nous de gérer ces choses-là, et on préférait que ça soit fait par la communauté de manière récurrente, donc on est parti sur Patreon. Franchement, c'est un super départ, on est déjà à 60% de ce qu'on dépense qui vient d'être couvert, avec 58 patrons là depuis moins d'un mois, donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits ou qui pensent s'inscrire. Moi, j'ai eu des conversations avec des gens qui l'avaient déjà fait, des gens qui l'avaient pas encore fait. Tout le monde, enfin, pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs. Alors évidemment, Patreon, vous verrez, il y a des objectifs avec des étapes différentes. Donc la première étape, c'est couvrir en fait les frais qu'on dépense aujourd'hui. Après, il y a d'autres frais qu'on aimerait avoir. Après, il y a couvrir un peu. Au niveau de notre temps, babysitting ou choses comme ça. Donc voilà, si vous pensez que les cascodeurs, ça vous apporte quelque chose, que vous voulez vous accepter de dépenser bah, le prix d'un café ou d'un dessert par mois, ou deux, ou trois, ou cinq, on ne sait pas. Voilà, rendez-vous sur patreon.com/lescascodeurs.
Alors, voilà, déjà, avoir un patron, ouais. Des fois, c'est chaud, mais alors 58 ou plus de patrons, t'imagines ?
Exactement.
Oh, la galère. On va être obligé de leur obéir en plus.
Ouais, et c'est le concept des actionnaires en fait.
Oh là 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 là. Mais attention, ils vont demander des dividendes. Ouais. Remarque, ouais. C'est nos épisodes, les dividendes.
Voilà.
Bon.
Outillage, il y avait. Alors, c'est sur GitHub, quelqu'un qui expliquait les contributions open source, et donc Microsoft qui dit nous sommes le plus gros contributeur open source, ce qui est vrai en volume absolu. Mais ils expliquaient, mais par contre, en nombre de. Par rapport au nombre de gens que vous avez dans votre organisation, quel est le ratio? Donc, ils ont fait ça. Alors, c'est uniquement les gens qui contribuent sur GitHub et qui annoncent de quelle boîte ils sont ou qui ont un email de la boîte. Donc, Mozilla est à 40%, Pivotal à 18-27%. Suse à 17,64, Red Hat à 12,68, etc. Square à 11,25 et Microsoft à 3 du coup. Donc c'était une façon de revoir les choses. Alors c'est hyper faussé comme analyse parce que tout le monde n'est pas sur GitHub ou en tout cas tout le monde n'annonce pas qu'il travaille pour telle personne. Ou moi par exemple j'utilise pas l'email Red Hat. Donc ça se trouve je suis pas dans ces volumes là. Ce que je trouvais intéressant, c'est que bah, Pivotal qui a eu alors il y avait toute la Porsche Spring qui était open source, mais il y avait plein d'autres parties qui étaient privées. Donc là il y a quand même un gros volume de gens qui contribuent et qui sont sur GitHub, donc ça c'est cool. Et Square aussi, qui est quand même pas une boîte technologique en théorie, ils sont dans la finance, qui est plutôt à plein de codes propriétaires, et en fait ils contribuent quand même. Il y a 11,25% des gens chez Square qui contribuent dans l'open source. C'est intéressant de voir ces choses-là sortir. On va passer aux méthodologies ou plutôt à quelqu'un qui a écrit un article sur c'est désillusion. Tu l'as lu?
Non, je ne l'ai pas lu.
Ah, dommage. C'est sur la désillusion des logiciels. Il dit, voilà, moi, quand j'ai démarré, on avait, mettons, 640K et il fallait faire tourner les choses. Et aujourd'hui, on a 16 gigas de RAM et puis finalement, on fait pas plus de choses. On est extrêmement, enfin beaucoup de gâchis dans les ressources qu'on a parce que soi-disant le développeur est une ressource plus rare que l'ordinateur et du coup on envoie du pâté, des abstractions, des machins et puis finalement on pédale à améliorer les CPU mais pour faire tout ce qu'on faisait avant et du coup on n'avance pas. Donc il explique, il est assez déçu là-dessus. Il explique, alors moi j'ai jamais utilisé Google Inbox, mais de toute façon c'est fini, mais qu'il mettait une dizaine de secondes chez lui pour ouvrir un email. Il explique que Windows 10 ça met 30 minutes à se mettre à jour, alors que ça fait 6 gigas et que l'installation directe limite met moins de temps. Il explique que y a plus de latence dans les éditeurs modernes que quand tu joues à Counter-Strike ou
c'est pour ça qu'on utilise VI nous hein.
Voilà, c'est ça. Non mais il dit voilà le rafraîchissement ils arrivent même pas à atteindre 60 images par seconde. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura des écrans à 120 images par seconde? Il y a des jeux qui sont qui affichent des millions des centaines de milliers de polygones pendant le même temps que ces éditeurs utilisent pour afficher un caractère sur l'écran. Voilà, donc bref, il est pas content. Pareil, les pages web qui sont énormes, Android qui fait 6 gigas. Il dit bah du coup j'ai plus de place. Qu'est-ce qu'ils font avec 6 gigas sur un téléphone? Windows 95 ça faisait 30 mégas. Donc c'est assez intéressant de voir les chiffres, en tout cas les différentes. Google Apps ça fait 150, Google Keyboard ça fait 150 mégas. Enfin bref, il explique un certain nombre de choses là-dessus. Attends, j'essaie de voir s'il y en a d'autres. Voilà, donc il dit ouais, on fait plus la technologie pour l'optimisation et l'utilisation idéale entre guillemets des ressources. S'il faut qu'on change les choses, etc., etc. Alors bon, c'est pareil, c'est comme l'autre article, c'est assez facile de rentrer dans le jeu en disant ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc j'ai essayé de trouver des contre-arguments. Et en fait, c'est vrai qu'on fait les choses de manière inefficace, mais on les fait de manière beaucoup plus rapide. Je pense qu'on passe effectivement moins de temps par fonctionnalité sur les choses qu'on fait. Alors c'est ce qu'il dit. Il dit bah ça veut dire que le développeur il fait payer son côté paresseux aux utilisateurs. Ah ça a planté, bah vas-y redémarre, c'est pas grave. Tu vois. Mais moi je trouve qu'on fait quand même beaucoup plus que ce qu'on faisait il y a des années. Il y a des années on avait un ordinateur et on interagissait entre le clavier et l'ordinateur qui était à un mètre de nous au maximum et on avait cette boucle là. Maintenant on a des trucs qui envoient des 0 et des 1 à travers le monde. D'ordinateur à ordinateur, c'est sécurisé et non lisible par les meilleures agences de sécurité du monde, en tout cas quand c'est bien chiffré. Les données, elles sont plus sur notre disque dur, elles sont sur un certain nombre de disques durs pour pouvoir supporter une disponibilité qui est bien au-dessus de ce qu'on avait sur notre ordinateur. Qui n'a jamais eu à essayer de récupérer ses données de son ordinateur qui a crashé ou de sa disquette qui a bouffé son rapport? On peut faire des choses avec son téléphone mobile, c'est juste impensable quoi. Malgré toute l'efficacité qu'on a, on fait juste pas du tout les mêmes choses qu'on faisait avant. Avant on disait bah non, tu donnes une page HTTP, maintenant il y a OAuth, tu veux afficher des trucs dynamiquement, etc., etc. Sur Windows, il expliquait ouais, c'est plus facile de le réinstaller que de faire une mettre à jour. En tout cas, c'est plus rapide. Ouais, le problème c'est que si tu perds tous tes settings et ta configuration, etc., et que t'es pas forcément super super content. Et on le sait que le append only au sens log est beaucoup plus rapide que j'écris et je mets à jour chacune des entrées. Donc c'est quelque part c'est un peu la même logique. Après, il explique, voilà, le développeur est une ressource plus rare que l'ordinateur. Ouais, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une personne, enfin, ce qu'on vend pas, c'est qu'une personne a passé 10 000 heures pour implémenter la fonctionnalité. Ce qu'on vend, c'est que la fonctionnalité, elle apporte de la valeur à la personne. Donc, c'est vrai que ça peut apporter de la valeur, même si c'est pas parfait, plus vite. Et du coup, ben, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Après, évidemment, ils critiquaient le fait qu'avant, bah, on mettait sur un ordinateur nos programmes et ça tournait. Maintenant, on met des machines virtuelles dans lesquelles on met des containers et des orchestrateurs. Mais ce que ça a amené, c'est une flexibilité juste incroyable en termes de déploiement de manière automatisée ou en une minute, le truc est déployé au lieu de devoir appeler Dell, attendre 6 mois que l'ordinateur arrive, qu'ensuite un mec branche... je sais pas moi, le réseau, le machin, le truc, etc., etc. Après, je suis d'accord avec lui. YAML, c'est comme le XML, sauf qu'il y a même pas de, il y a même pas de schéma. Donc, ça, c'est un petit peu curieux. Et en tout cas, ça pose une question intéressante. C'est, on peut pas déclarer qu'un logiciel est, ça y est, il fait le job, il est bon, il est fini. Parce que si tu mets pas à jour, bah, premièrement, tes dépendances, elles vont évoluer. Il y a des failles de sécurité. Il y a l'OS qui va enlever la fonction sur laquelle tu t'appuyais. Donc déjà, il va de moins en moins marcher. Et puis même s'il marchait, les gens disent « Oh là là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été mis à jour. Ça veut dire qu'il est mort, je vais aller regarder autre chose. » Il y a vraiment un côté nouveauté aussi dans nos utilisations des logiciels qui fait que les gens, s'il n'y a pas de mise à jour, les gens, ils viennent pas, quoi. Et VI, Vim, c'est encore mis à jour. Hein. Il y en a...
Bah, tout le temps,
ouais. Pas tous les jours, mais ouais.
Ah, très régulièrement.
Donc voilà, j'essaie de trouver des arguments. Moi, je trouve que c'est assez facile de rentrer dans cet article et de dire, ouais, il a raison, mais je pense qu'il y a... c'est juste une vision un petit peu non complète du monde, en fait, qu'il a. Voilà, on va passer aux sécurités. Je sais pas si tu as regardé. Alors celui-là, c'est intéressant. D'accord. C'est Protecting User Identity Against Silhouette. Alors Silhouette, c'est un... Vous rappelez là, les failles Intel, c'était des failles à cause du fait qu'on mettait des choses dans le cache et puis en fonction du temps qu'il fallait pour récupérer une information, on savait si elle était dans le cache ou pas et du coup, on savait en gros récupérer l'information. Là, c'est la même chose, mais pour Twitter. Donc, vous créez un certain nombre de comptes fake. Pas aléatoirement, mais de manière propre, vous bloquez un certain nombre d'utilisateurs et bloquez pas d'autres, d'accord ? Et ensuite, quand vous arrivez sur... Bah, vous savez l'exemple que je disais là, le Same Origin Policy, le truc qu'on peut éviter, c'est de pouvoir poster en tant que personne de Twitter... Enfin, poster en tant que Guillaume il affiche ma page web. Eh ben, même si je peux pas faire ça, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que c'est Guillaume. Et Guillaume, il est pénible parce qu'il utilise des ad blockers, il enlève ses cookies. Donc, je sais pas que c'est Guillaume.
Pourtant, j'aime bien manger les cookies.
Ouais, c'est ça. Il les a tous mangés, donc il y en a plus dans l'ordinateur. Donc, en fait, là, ce qu'ils utilisent, c'est qu'ils disent, bon, ben voilà, on fait un appel. Il y a un script dans la page qu'on charge, qui vient de mon site. Et je me log et j'essaye de voir tous mes fake utilisateurs. Alors, je vais user 1, user 2, user 3, etc. Et en fait, si user 1 a bloqué Guillaume, la page qui est affichée, c'est un 404 ou un 401. Enfin, c'est un truc du genre, bah, désolé, t'as pas accès à la ressource. Et c'est chargé beaucoup plus rapidement que si, effectivement, je peux accéder à user 1 avec sa timeline. Et donc, en fonction de ses temps, ils savent que, bah, tiens, c'est, alors, personne a été bloqué par user 1, user 7, user 12 et pas les autres. Hop, une petite matrice, une petite statistique et boum. Ah, bah, ça, c'est probablement Guillaume. C'est ouf, hein. Ouf. Et ça marche, les gars disaient, avec un volume, avec 20 comptes Twitter, ils arrivent à différencier un corpus de genre 1 million de personnes, quoi. C'est assez impressionnant.
Pas mal, hein.
Du coup, ils expliquent comment ils ont fait la mitigation de ce problème-là. Voilà, sinon il y a eu des failles de sécurité dans la distribution Alpine, qui est une distribution Linux qui est assez utilisée par les gens qui font des images Docker parce qu'elle est petite.
Possible.
Voilà, alors c'est pas la plus petite au monde, mais c'est une des plus petites possibles. Sauf que ils avaient coupé un peu les bords, donc l'accès, enfin la mise à jour des packages, elles étaient faites en HTTP et pas HTTPS. Une fois que le paquet était récupéré, je crois qu'il était dézippé avant d'être vérifié en termes de clés d'intégrité. Donc ça, c'est un truc à pas faire en sécurité, règle numéro un. Bon bref, du coup il y avait des exploitations possibles de ça, et du coup bah des Docker avec du Alpine en dessous, il doit y avoir une palanquée qui tourne en prod, peut-être visible. Du coup il faut mettre à jour les gars. Ça fait partie du problème du DevOps. Le DevOps, il fait aussi de l'Ops pour aller mettre à jour toutes les failles de sécurité.
Et ouais.
Voilà. On va passer sur sur loi, société et organisation. Genre c'est un peu la révolution. En tout cas, il y a Linus Torvalds qui
ça fait du bruit.
Dit, voilà. Je viens de m'apercevoir, on a réussi à me faire comprendre que mes comportements où moi j'étais 100% sur la technologie et le code first et je m'en fous si je suis obligé de froisser les gens et de les humilier, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est que la technologie, elle soit bonne et que les patchs, ils soient bons et qu'à la fin, on aille vers un meilleur code. Donc, il vient de changer sa vie, il fait son coming out là-dessus, il explique, pas succinctement d'ailleurs, il explique, voilà, que il vient de s'apercevoir de tout le mal qu'il a pu causer, qu'il s'en excuse, qu'il va aller travailler sur lui-même. Du coup, il se met en pause comme à l'époque où il s'était mis en pause du
noyau Linux
pour aller développer Git, exactement. Là, il se met en pause pour travailler sur lui-même. Et dans la foulée, du coup, un nouveau code de conduite a été publié sur Linux, en fait, dans la communauté Linux. Et avant, il y avait le code of conflict, en fait. Donc, ça, il y avait, effectivement, ils étaient vraiment Linus était vraiment anti code of conduct. Et donc là, ça a été mis à jour. Un peu tôt pour voir où est-ce que tout ça va aller. Je sais pas de faire d'analyse, mais en tout cas, ça, voilà, c'est assez significatif dans tous ces fameux changements qu'on voit autour de la diversité, de l'ouverture, de pas être activement agressif. Je sais pas si toi t'as une vision aussi là-dessus.
Ouais, non, bah c'est en tout cas chez nous à Google, tous les sujets de inclusivité, discrimination, etc. C'est un gros gros sujet. Donc, enfin moi en tout cas dans mes collègues autour de moi, on était assez contents de voir ça. Parce que Linus, c'est vrai que c'était un petit peu l'archétype même du mec, j'allais dire pas sympa, enfin très rentre dedans et tout, il s'en fout d'attaquer les personnes, etc. Alors ça doit quand même repousser pas mal de gens dont les contributions auraient pu être super intéressantes, quoi. Et puis moi j'ai tendance à dire, au travers de l'expérience que j'ai pu avoir dans l'open source, c'est qu'on a tendance aussi à, en tout cas c'est mon vécu, à attirer au sein de son projet des gens qui te ressemblent. Donc si t'es gentil, sympa et tout, tu vas avoir des gens gentils, sympas et tout. Et si t'es un vrai salaud ou quoi, tu vas aussi avoir des grosses têtes pénibles qui vont rejoindre ton projet. Donc je pense que ça va dans le bon sens si, on va plus vers un consensus, si on écoute vraiment les autres. Et avec la diversité, en général, on fait quand même malgré tout des meilleurs produits, puisqu'il y a beaucoup plus de points de vue, des gens avec des backgrounds, des expériences complètement différentes, qui peuvent contribuer de manière significative et différente, et avec un nouvel œil à un projet. Donc c'est plutôt bienvenu, je trouve, qu'il fasse cette espèce de coming out, comme tu l'as appelé. Donc, ouais. À voir ce que ça va donner, tout ça.
Ouais. Sinon, l'Union européenne a voté, en fait, ses directives sur le droit d'auteur à l'heure du numérique, notamment les fameux articles 11 et 13. Je sais pas si tu as suivi et que tu veux couvrir.
Non, j'ai pas suivi ça.
D'accord. Donc, alors, il y en a deux, je sais plus lequel est lequel, mais en gros, l'article 13... Alors c'est quoi ? Oui, impose en fait aux plateformes de filtrer de manière automatique et systématique les contenus pour éviter les violations de copyright. Donc en fait c'est du filtrage a priori. Et puis l'article, donc ça c'est alors bon, il y a ça. Donc c'était ciblé aux GAFA, etc. Et puis, mais après, il y a un flou dans la loi, parce qu'on dit pas, la loi, elle dit pas, c'est un, Google doit le faire, et puis YouTube et Twitter et Facebook. La loi, elle dit quand on est une plateforme grande ou je sais pas quoi. Du coup, il faut, il va y avoir, je pense, une étape d'interprétation de la loi,
Interprétation,
qui doit filtrer, qui doit pas filtrer, à quelle vitesse, etc., etc. Il y a eu un moment, donc GitHub, vous savez, avait fait une pétition en disant, bah nous, s'il faut qu'on filtre tous les trucs de bout de code parce que ça pourrait violer tel copyright, voilà, on va pas s'en sortir. Donc en l'occurrence, il y a une exception sur le code open source. Il y a une exception sur un autre sujet, mais je me rappelle plus le détail. Donc il y a plein mal de gens qui parlent d'une grosse défaite pour pour l'internet libre et ouvert. L'article 11, donc là on a parlé de l'article 13. L'article 11, c'est sur un truc qui s'appelle les droits voisins. Donc je suis un journaliste, j'écris un papier que je donne au Monde qui le publie. Donc moi je suis mon droit d'auteur parce que j'ai écrit ce papier. Le Monde a un droit voisin puisque c'est lui qui publie ce papier-là en mon nom et voilà, il est éditeur de presse. Et donc ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir être payé au lien avec un morceau du texte, peut-être le début ou quand il y a un morceau du texte et un lien qui pointe vers l'article du Monde, le Monde veut pouvoir être rémunéré. Enfin, je dis le Monde, mais c'est juste un exemple. Et donc, notamment les Google News et les choses comme ça, l'idée, c'est que, en fait, ces plateformes-là rémunèrent les éditeurs de presse. Et donc, c'est un peu l'idée derrière cet article-là. En pratique, c'est pas forcément vrai. Si ça se trouve, c'est même peut-être les journaux qui vont payer Google. Enfin, bon, on sait pas comment ça va finir, mais en l'occurrence, elle impose. Donne la capacité de réclamer des royalties en fait si un accord n'a pas été signé. Du coup, en gros, Google, s'il veut référencer quelqu'un en mettant un morceau de l'article, devra signer un accord quelconque avec ses éditeurs de presse. Donc là, c'est pareil, les gens ont généralisé à toutes les plateformes. Donc si moi je fais un blog et que je pointe vers un article du Monde, est-ce qu'il faut que je les paye? Donc en fait, moi j'ai pas
C'est
lu la loi, mais
bien compliqué, hein?
de ce que j'ai pas eu la loi, mais ce que j'ai vu, il y a eu des restrictions dans les lois, et du coup, il y a des définitions du genre, il faut que, déjà, faut que ça soit à but financier qu'on fasse ce lien-là, et il faut que ça soit des plateformes larges, enfin, je me rappelle plus le détail, mais il y a moyen de, enfin, de cadrer les choses et que ça soit fait pour éviter les abus des grosses plateformes et qu'il y ait un déséquilibre entre les grosses plateformes et les pauvres petits éditeurs de presse qui ont des soucis en ce moment. Voilà, donc on vous a mis trois liens qui expliquent ce qui s'est passé. Certains qui sont oh là là c'est la catastrophe, d'autres qui disent non on parle pas de, enfin ça change rien à l'internet libre, voilà les raisons. Donc ça vous laissera vous enfin zoomer là-dessus et puis vous faire votre propre opinion. Je pense que j'ai pas super bien résumé pour être honnête, j'ai un petit peu
Ouais, c'est un sujet
un
pas
petit peu
évident.
ramé là. On n'a pas Audrey là, donc un autre truc intéressant, Bercy, donc il y a, je crois que c'est ouais, le ministère de l'économie et des finances, a un certain nombre de modèles macroéconomiques hein, qu'ils utilisent pour les simulations du genre, bah ouais, si on réduit les impôts de temps, qu'on augmente la CSG de temps et qu'on baisse les retraites de temps, ça fait tel impact. Et donc ils ont suite à, je sais plus qui a, en gros les a amenés devant la cour en leur disant, vous devez ouvrir ces codes-là d'après telle loi d'ouverture des codes publics, etc., etc. Donc ils ont ouvert le code qu'ils ont publié, enfin ils ont droppé un zip en gros. Framagit a mis ça sur. Non, attendez, excusez. Ouais, si, c'est ça. Il y a un lien sur GitHub. fait par Framagit, voilà, qui ont copié le code et qui les ont publiés. Alors pour information, le code, on se dit, bah code, super, c'est en quoi? C'est en C, c'est en Java? Non, c'est en .txt, en fait. Ça, c'est des, c'est des fonctions, donc c'est par des logiciels propriétaires de simulation, un petit peu L4G, quoi, voilà, ça ressemble à des procédures avec des variables et des choses qui sont écrites. Donc en tout cas, ça permet de voir ce qui se passe conceptuellement. Ça va pas pouvoir vous permettre de le faire tourner, mais au moins, le code est déjà là. Donc on peut voir les hypothèses et économiques sur lesquels il s'appuie. Ok. Quelque chose à rajouter?
Non, mais du coup, j'ai pas spécialement envie de travailler sur ces espèces de codes bizarres propriétaires. ça m'excite pas beaucoup.
Ça rappelle les procédures stockées pour ceux qui en ont fait dans leur jeunesse. Ouais. Alors, un petit type de l'épisode ou un outil de l'épisode, c'est comment pouvoir faire un checkout d'une pull request GitHub sans avoir à rajouter le remote de la personne qui a fait la pull request. Donc ça, c'est toujours chiant. Alors, je vais pas vous le dire à la main parce que la ligne de commande, elle est un petit peu longue, mais c'est un git config global add remote origin point origin point fetch et puis
mais là, une chaîne de caractères spécifiques. T'es en train de la dire en entier, là.
non, mais je vais arrêter. Ensuite, vous faites un git fetch origin ou upstream si vous avez renommé upstream. Donc, à ce moment-là, il faut remplacer origin par upstream partout. Et à ce moment-là, ça ramène en branche remote, mais listé, en fait, les pull requests sous le nom pr slash et puis le nom de la pull request. Et du coup, derrière, vous pouvez faire un git checkout pr slash 123 si votre pull request, c'est la version 123. Donc, vous faites ça une fois sur votre repo. Et puis, quand vous faites un fetch, vous allez voir les pull requests que les gens ont pousser vers ce repository et du coup vous pouvez faire un checkout. Donc ça, pour moi personnellement, ça va me faire gagner un peu de temps.
Pas mal pratique.
Yes. Et puis dans la rubrique des débutants, alors on va pas vous expliquer quelque chose, mais on va vous donner. Oh non, j'ai effacé. On va vous donner une ressource qui est le git cheat sheet qui affiche les. Pourquoi ça affiche plus là? Ça affiche quelque chose toi quand tu le vois là, l'article là?
Par contre, je vois pas. Normalement, il y avait les. Enfin, je vois les colonnes, mais je vois plus les.
Ah ouais, c'est ça, c'est louche. Hein.
Ouais.
Bon, on avait une ressource qui marchait super bien. Et puis là, elle a plus l'air de marcher, mais c'est dommage, ça donnait les différents états dans Git, donc c'est-à-dire le workspace, c'est-à-dire en gros votre répertoire. Stash, c'est ce que vous avez mis de côté. L'index, c'est ce que vous avez décider que vous allez committer, le repo local, donc c'est ce que vous avez committé, et puis le repo upstream, et puis il avait des flèches, des opérations qui vous permettent peut-être de passer les changements d'un endroit à l'autre avec bah, le git push, ça fait ça, le git commit, ça fait ça, le git stash, stash pop, etc., ça fait ça, et c'était super cool, et là, il se trouve que...
Mais il y a des erreurs dans la... Si tu regardes dans la console JavaScript, il y a des erreurs de chargement, c'est bizarre.
Bon, bah, dommage, ça a eu marché, peut-être ça remarchera. Peut-être
ça remarchera, ouais.
Vous avez le lien dans les show notes de l'épisode. Voilà, on va passer aux conférences. Alors, il y a le Paris Web les 4, 5 et 6 octobre 2018. DevFest Nantes le 18 et le 19 octobre. Ils sont pleins, donc n'oublie pas ton ticket, sinon tu vas rester dehors. Jenkins World Europe du 22 au 25 octobre à Nice. Alors, c'est le truc... Alors Arnaud, il est aussi sous l'eau et malade à cause de ça, je crois, mais, ou grâce à ça. Donc,
mais par contre, bon, il donne un code de réduction, Arnaud. Attention.
Ouais. JWA héritier. Donc JW Arnaud héritier. Donc c'est JWAHERITIER. Et vous obtenez non pas 5, non pas 10, mais 20% de réduction. Et c'est à Nice. Donc il fera beau. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, Vox Days Microservices du 29 au 31 octobre. Donc là, c'est très bientôt. C'est à Paris.
Yes.
C'est sur toutes les approches microservices. Il y a plein de sujets différents. Il y a des workshops. Il y a plein de trucs intéressants. Allez-y, c'est voxt.com/microservices. Non, attends, je dis une connerie, je crois.
Vox Days. Ouais, je sais plus.
Ouais, voxtdays.com/microservices. Ensuite, bdx.io. Ah oui, pardon.
DevFest Toulouse, le 8 novembre.
Ouais.
J'y serai. DevOps Belgique, on y sera du 12 au 16 novembre. Sold out aussi. BDXIO aussi, c'est déjà sold out. 9 novembre. Ah oui, ils ne sont pas dans l'ordre du coup. Codor en scène le 22 novembre. Et après Snowcamp du 23 au 26 janvier.
Voilà. Donc, et sûrement d'autres qu'on a oubliés. Si vous en faites une conférence, envoyez-nous un petit podcast ou alors un petit lien sur Twitter. On les rajoutera dans la liste. Voilà. Merci de nous, d'avoir suivi le binôme de choc. Le binôme qui survit au super virus.
Ouais, au gris. Et, on résiste à tout.
C'est ça. Enfin, pour l'instant, on va pas non plus péter plus haut que notre cul, comme on dit. Voilà, écoutez, à la prochaine fois. En croisant les doigts, on aura un épisode sur Kotlin pour l'interview de dans 15 jours. Voilà. Et puis, à bientôt. Et puis, si vous avez un crowdcast généralement, n'hésitez pas à aller sur lescascoleurs.com et vous verrez un lien crowdcast tout en haut. Et puis, vous verrez aussi un lien Patreon pour
nous soutenir.
Nous soutenir, voilà, exactement. Merci et puis à la prochaine fois.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.